Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, c'est l'heure de votre émission quotidienne, le forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème du forum d'aujourd'hui, c'est les bonnes pratiques pour une gestion durable des ressources naturelles au Niger dans un contexte d'insécurité et de pression accrue de l'homme. Les ressources naturelles, qu'est-ce que c'est? Quels sont les défis que pose l'insécurité pour la gestion des ressources naturelles? Quels sont les effets néfastes que produit la pression humaine sur les ressources naturelles? Quelles sont les principales recommandations issues de ce forum? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir professeur Ali Mahamoun, recteur de l'Université de Diffa. Monsieur le recteur, bonjour.
Bonjour.
Nous avons également professeur Lawal Sitou, doyen de la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement à l'université d'Andiko Dankulodo de Maradi. Il est au téléphone avec nous. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour.
Nous avons également Alkali Abdoul Karimoun, chargé de suivi et évaluation du programme de développement de l'agriculture familiale PRODAF, également au téléphone avec nous. Monsieur Alkali, bonjour.
Et bonjour.
Et pour la présentation, c'est moi Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans le forum d'aujourd'hui. La problématique de la gestion des ressources naturelles, une préoccupation qui était au centre d'un forum organisé par l'Université de Diffa du 30 septembre au 2 octobre dernier. Un forum qui a réuni des acteurs locaux et internationaux autour des questions de dégradation de l'environnement liées à l'afflux des réfugiés et des déplacés dans la région de Diffa. Nous nous sommes inspirés de ces assises de Diffa pour vous proposer ce soir un forum sur le thème « Les bonnes pratiques pour une gestion durable des ressources naturelles au Niger dans un contexte d'insécurité et de pression accrue de l'homme ». Nous avons pu contacter aussi quelques acteurs clés ayant pris part à cet événement afin qu'ils puissent partager avec nous la quintessence de leurs réflexions ainsi que les principales conclusions auxquelles ils sont parvenus à l'issue du forum de Diffa. Sans plus tarder, je vais vous laisser vous présenter et présenter vos services respectifs à nos auditeurs. Je commence par nos invités qui sont au téléphone avec nous, Alkali Abdoul Karimoun.
Oui, bonjour Monsieur Alassane.
Bonjour.
Bonjour Monsieur, participant à ce forum. Moi, je suis Alkali Abdoul Karimoun, responsable de situation au niveau du PRODAF. Le PRODAF, dans sa globalité, c'est un programme voulu par les plus hautes autorités du ministère indien et soutenu par des barrières de concombre de FIDA. Le PRODAF intervient dans les régions de Maradi, Zambia et Tawa. Et récemment, on a pu négocier une extension vers la région de Diffa, une région qui était sous le coup de l'insécurité depuis 2015. Et donc l'idée était de suppléer un temps soit peu les actions d'urgence pour commencer l'action de l'État, parce que l'urgence a beaucoup duré à Diffa. Donc c'est dans ce sens que le PRODAF a été extendu dans la région de Diffa.
D'accord. Et nous donnons la parole au professeur Lawal Sitou.
Moi c'est Lawal Sitou, je suis le doyen de la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement de l'université d'Andiko Dankulodo de Maradi. Donc, comme vous l'avez si bien dit, ici à l'université d'Andiko Dankulodo de Maradi, la question de l'environnement est une question cruciale ou une question transversale dans toutes nos unités de formation et particulièrement au niveau de la faculté d'agronomie et sciences de l'environnement.
L'université d'Andiko Dankulodo de Maradi a été créée quand?
L'université d'Andiko Dankulodo de Maradi a été créée en 2010. Donc, avec à sa création l'Institut universitaire de technologie, donc qui forme des ingénieurs et des licenciés, des techniciens supérieurs en génie civil, génie mécanique et génie électrique. Après, l'université a vu la création d'une faculté des sciences dédiée aux sciences fondamentales, maths, physique, sciences naturelles, chimie, physique. En suite, il y a eu la création en 2011 de la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement.
Donc vous avez été le doyen.
Que j'ai l'honneur de diriger. Et avec un mille accents de formation sur les questions de l'agronomie générale, où les ingénieurs sont formés avec des diplômes de sortie master, avec trois, quatre spécialités. Donc, master production végétale et système de production, master en agroéconomie, master en système d'élevage et développement durable, et master en gestion intégrée des ressources naturelles.
Merci. Nous revenons au studio pour donner la parole au professeur Ali Mahman.
Je vais présenter l'université de Diffa, qui a pour thématique écologie et environnement. Elle est composée de la faculté des sciences agronomiques, de l'Institut supérieur en environnement et écologie, qui colle avec la thématique de l'université. Et ces deux structures sont épaulées par des cellules d'appui, notamment la cellule paix et développement, qui est issue des trois colloques qu'on a organisés. Et nous avons aussi des unités mixtes de recherche. Nous avons une unité mixte de recherche en aridoculture pour voir ceux qui poursuivent les productions agricoles dans les cuvettes. Et une unité mixte de recherche érémologie et lutte contre la désertification. Une unité mixte de recherche suivie écologique. Donc voilà la structuration de l'université de Diffa.
De Diffa. Pour rentrer dans le vif du sujet, dites-nous les ressources naturelles, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous mettez dedans. Je m'adresse au professeur Situ Lawali, doyen de la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement à l'université d'Andiko Dankulodo de Maradi.
Oui, pour parler des ressources naturelles, il faut entendre par ça un peu les questions de toutes les ressources qui sont naturellement disponibles aux communautés. Pour parler des ressources naturelles, il faut parler de la base de production. D'abord, la terre, le foncier. Donc, la terre fait partie des ressources naturelles que Dieu a données à l'humanité pour exploiter. Et vous avez la terre et les ressources que la terre supporte. Donc, vous avez entendu, on peut mettre l'eau. L'eau fait partie des ressources naturelles aujourd'hui, qui sont objets de convoitise et d'exploitation par les communautés. Vous avez les ressources végétales, à savoir les ligneux comme les arbres. Vous avez aussi les herbacées, tout ce qui est herbacées, tout ce qui est plantes fourragères, tout ce qui est plantes alimentaires, tout ce que vous pouvez retrouver. Vous avez aussi, entre autres ressources naturelles, les espaces. Vous avez l'espace, par exemple, les espaces pastoraux. Donc, les espaces pastoraux, ce sont les aires de pâturage.
Ouais.
Ce sont le couloir de passage des animaux. Et au Niger, on distingue plusieurs types de couloirs. Il y a des couloirs de passage internationaux et il y a des couloirs de passage nationaux qui sont tracés d'un département à un autre, d'une région à une autre. Vous avez aussi tout ce qui peut être exploité sur ces espèces ligneuses. Par exemple, le développement de certaines activités comme l'apiculture, la production du miel, par exemple, fait partie des ressources naturelles. Vous pouvez aussi ajouter tout ce qui peut être des terres dégradées. Les terres dégradées sont des terres, parfois, dans les terroirs, on considère comme des terres qui n'appartiennent à personne. Et pourtant, ce sont des terres qui appartiennent effectivement, qui ont des vocations. Et c'est ça, aujourd'hui, que l'État s'efforce de les récupérer à travers plusieurs programmes de développement, plusieurs programmes de l'État dans la vision d'augmenter les superficies cultivables. Entre autres ressources naturelles, il faut ajouter la faune.
Oui.
Donc, la faune fait partie aussi des ressources naturelles. La faune sauvage, nous avons beaucoup de ressources aujourd'hui que nous avons au Niger.
Oui.
Et donc, tous ces aspects-là doivent être compris comme étant
des ressources naturelles.
Voilà.
Bien. Alkali Abdulkarimoun, chargé de suivi et évaluation au niveau du PRODAF, Programme de développement de l'agriculture familiale. À votre niveau, quelle est la ressource ou les ressources naturelles sur lesquelles le PRODAF met l'accent?
Pour compléter le professeur Situ, ici au niveau du PRODAF, notre vision en matière de gestion des ressources naturelles, du GDT, gestion durable des terres dans sa globalité. C'est d'abord de protéger ces ressources-là pour augmenter leur productivité afin que la génération présente et future puisse en bénéficier de façon rationnelle. Le programme s'inscrit dans ce cadre pour essayer d'accompagner l'État à réaliser ou à relever ce défi. Donc, de façon globale, plusieurs définitions et plusieurs concepts sont possibles. Mais le plus souvent, le concept qu'on utilise comme définition même de cette gestion durable de terre, c'est d'abord minimiser la dégradation de terre. C'est utiliser la terre tout en minimisant sa dégradation. Maintenant, là où la terre est dégradée, réhabiliter ces zones dégradées. Et assurer aussi une utilisation optimale de ces ressources-là pour les générations actuelles et futures. Parce que la GN s'inscrit dans la durée, dans la continuité de la chose. On a commencé par faire le diagnostic pour voir quelles sont les pratiques actuelles de la région de l'IFA, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et c'est de façon simple qu'on a approché le négatif, qu'il y a beaucoup de pratiques néfastes qui sont là, qui se font. Et il faudrait vraiment édifier l'ensemble des participants pour qu'on puisse pallier à ce phénomène.
Pourquoi est-ce important pour le PRODAF, la gestion durable des terres, vous l'avez dit, mais de façon générale des ressources naturelles?
Ok, bon, pour le PRODAF, le PRODAF s'inscrit dans la continuité de la durée des choses. La vision même du PRODAF, c'est de booster la production tout en maintenant l'écosystème et les ressources naturelles dans les situations plus ou moins initiales, départ sans pourtant les dégrader. Donc, pour cela, il faut que d'abord que le PRODAF contribue à cet effort-là de conscientisation et sensibilisation pour que l'ensemble des acteurs puissent comprendre que cette ressource naturelle-là, il faudrait prendre soin de cette ressource naturelle. On ne doit pas faire une exploitation minière de cette ressource naturelle parce que avec les changements et la réalité climatique, cette ressource naturelle s'est fragilisée. Donc, le PRODAF vient pour donner aux utilisateurs de la terre des voies et des moyens de règlement pour qu'ils puissent en mieux prendre en soin de cette ressource naturelle tout en augmentant leur productivité.
Bien. Voilà, nous allons donner la parole au professeur Lawal Sitou. La gestion durable des ressources naturelles, qu'est-ce que c'est?
Par rapport à cette question de gestion durable des ressources, entendez par ressources naturelles, ce sont des ressources qui sont épuisables, en fait. C'est des ressources qui sont épuisables. Et aujourd'hui, vu l'enjeu de développement économique, vu l'enjeu de développement démographique du Niger, on conçoit bien qu'il y a certaines zones aujourd'hui qui sont déjà à l'épreuve de la crise foncière, à l'épreuve complètement d'une surexploitation des ressources. Je prends l'exemple à tout hasard d'une ressource fourragère, par exemple, la paille. La paille, aujourd'hui, fait l'objet de convoitises dans beaucoup de régions, pas seulement la région de Dissa. Toute la région nord de notre pays, la zone pastorale, aujourd'hui, est exposée à un phénomène à grande échelle de la paille. Alors que cette ressource, elle est une ressource qui doit être d'accès libre, d'accès public et à tous les usagers qui en ont besoin, aux animaux du pays comme aux animaux étrangers qui viennent séjourner chez nous. Mais cette ressource-là, on voit bien un enjeu de préoccupation autour d'un phénomène de ramassage de la paille aussitôt après l'arrêt des pluies. Donc là, ça expose la ressource maintenant à une dégradation rapide. On exploite non seulement le fourrage, mais aussi on emporte les semences qui permettront l'année prochaine de pousser et de donner de nouvelles herbes. Ça a pris des dispositions. Le gouvernement a signé un décret réglementant le ramassage, par exemple, de la paille. Le ramassage à grande échelle.
À un moment opportun, en fait.
À un moment opportun, même à des individus qui s'accaparent de ces ressources-là, et au détriment de la grande masse populaire des composantes des éleveurs ou des agro-pasteurs, ça, c'est interdit par le décret, c'est interdit par la loi. Si aujourd'hui, vous prenez un autre exemple, la terre. Vous avez aujourd'hui des ressources, telles que le couloir de passage, qui font aujourd'hui l'objet d'accaparement, soit par des grignotages par des communautés d'agriculteurs, soit par des installations des villages, soit par des installations des habitations lorsque le couloir passe dans les centres urbains. Tout ça font partie des éléments qui font en sorte que ce n'est que des germes de création des tensions ou de conflits qui pourraient germer entre les communautés.
Bien. Je pense que nous avons planté le décor par rapport aux ressources naturelles, leur gestion et leur importance. Parlons du forum organisé sous l'égide de l'Université de Diffa du 30 septembre au 10 octobre 2019 passé, je l'ai dit tout à l'heure. Nous revenons au studio pour donner la parole au recteur de l'Université de Diffa, professeur Ali Mahman. Pourquoi avoir initié une telle rencontre à Diffa?
Avant de répondre, permettez-moi de compléter mes collègues, professeur Sitou
et Al-Khali Abdoulkarim.
Et monsieur Al-Khali Abdoulkarim, pour compléter un peu la liste des ressources naturelles, notamment la biodiversité, qui est qualifiée de ressource des ressources. Les services des écosystèmes, tout ça, c'est considéré comme des ressources. Et si tu as parlé de la faune, effectivement, il y a aussi les zones de pêche pour la région du lac Tchad. C'est une ressource fondamentale qui fait l'objet de convoitises
qui a alimenté
d'ailleurs les ressources de la secte Boko Haram. Et maintenant, comme vous l'avez relevé à travers les questions, effectivement, cette ressource ou ces ressources naturelles font l'objet de prélèvements. Et très souvent, ça peut se traduire aussi par une pression exercée sur ces ressources. Et s'il n'y a pas de précautions déjà prises, on va aboutir à une rupture d'équilibre, donc à une dégradation de ces ressources. Et c'est ce qu'il faut éviter, ce que le professeur Sitou et M. Al-Khali ont souligné.
Pourquoi avoir initié un forum sur cette question?
C'est de réaliser une analyse approfondie des pratiques d'utilisation de ces ressources naturelles
dans la région de
Diffa, ayant enregistré cet afflux important de population et proposer des bonnes pratiques de gestion de ces ressources naturelles. Donc, on a fait intervenir des ressources humaines au niveau national, les universités publiques du Niger, mais aussi de la sous-région. Et on a fait contribuer les acteurs locaux, notamment les administrateurs. Le gouverneur était le parrain de ce forum, mais aussi les préfets des départements, les maires des différentes communes.
Et les chefs
producteurs, l'autorité coutumière a participé. Et donc voilà, tous les acteurs avaient pris part à cet important forum d'analyse pour élaborer un répertoire de bonnes pratiques de gestion de ces ressources naturelles et aussi des innovations à introduire pour améliorer la gestion durable de ces ressources naturelles.
Merci. Et nous allons peut-être donner la parole à Al-Khali Abdoulkarim, chargé de suivi et évaluation PRODAF, s'il a bien sûr des éléments de compléments d'informations par rapport à l'objectif visé à travers ce forum organisé à Diffa.
À travers l'organisation du forum, et pour compléter aussi le professeur Ali, l'objectif visé est en plus de faire cette analyse de l'état actuel des ressources.
Et l'établissement d'un répertoire de bonnes pratiques.
De bonnes pratiques, c'est de lancer un cri de cœur. Un cri de cœur sur le constat alarmant de cette gestion actuelle des ressources naturelles. Même si vous n'êtes pas scientifique, même si vous n'êtes pas chercheur, en passant dans la région de Diffa, vous allez constater un changement lié à la disparition de certains milieux qui sont là, qui sont en train de disparaître de façon rapide. Donc le forum en quelque sorte c'était pour interpeller les autorités à un niveau plus élevé et aussi les acteurs de la région de Diffa, pour dire si on ne prend pas garde, la désertification qui est à la porte de Diffa va essayer d'arriver le plus tôt possible. Donc c'est pour ça qu'on a organisé autour de la même date pendant 3 ou 4 jours, avec même des déplacements sur le terrain, pour voir du concret, parce que il ne suffit pas seulement de rester dans les salles pour dire quelque chose. On est même parti sur le terrain pour voir du concret, et pour voir des bonnes pratiques et même des mauvaises pratiques, pour qu'ensemble on puisse trouver des voies et moyens pour remédier à cela.
Nous poursuivons cette émission avec cette deuxième partie. Nous savons que Diffa est une région qui est confrontée, justement vous l'avez soulevé, à une situation sécuritaire et humanitaire critique avec des centaines de milliers de déplacés, de réfugiés et de retournés confondus. On peut bien l'imaginer, cette situation a des effets sur l'environnement. C'est ce que vous venez de soulever, M. Alkali Abdulkarimoun. Alors, aujourd'hui, quels sont les effets néfastes principalement que produit la pression humaine sur les ressources naturelles existantes? Alkali, continuez avant qu'on ne revienne au studio.
En termes de pression néfaste, on peut regarder actuellement, par exemple, l'afflux des populations déplacées réfugiées. Des fois, certains, sans assistance, c'est parmi ceux qui le font, pour pouvoir survivre aux besoins de leur famille, s'abattent sur ces lignes-là. Donc, c'est des coupes drastiques des arbres centenaires qu'on remarque dans la région de Diffa. Quelque chose qui, auparavant, n'existait pas comme ça. Et ils sont venus avec plusieurs types d'astuces pour essayer de tuer l'arbre vivant. Sans pour autant que les gens se rendent compte de cela. Et au fil du temps, vous allez voir que les arbres centenaires sont en train de disparaître. Et Fit l'a aussi dit dans son exposé, Diffa a une région qui a une très grande zone pastorale. C'est cette zone pastorale-là, ce brassage entre zone pastorale et zone agricole, qui fait en sorte que, quelque part, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont un peu atténués parce que chacun, la zone pastorale est au nord, la zone agricole et au sud, donc
il n'y a pas un contact immédiat entre les deux parties. Oui.
Donc, voilà. Mais maintenant, avec cette rupture de transhumance, parce que normalement, les animaux, pendant la saison sèche, sont au niveau du bassin de l'Afrique, là où il y a assez de disponibilité fourragère.
Oui.
Après, l'extraction remonte au nord. Maintenant, cette transhumance-là a été
interrompue à cause de l'insécurité.
Donc, ils sont appelés soit à être à se stagner autour d'un point avec plus de pression accrue, soit sur la ressource naturelle, l'appareil qui est là, sur les points d'eau, parce que les points d'eau sont limités et on va avoir des cheptels qui sont là importants autour des points d'eau où il y a la consommation humaine et la consommation animale sur ces points d'eau-là. Ce qui fait que les gens sont sous les pôles jusqu'à 2h30, 2h, 3h, et même la pression, cette pression-là est sous la nappe phréatique. Et maintenant, on remarque aussi, ceux qui ont tout perdu, ça donne aussi au ramassage de la paille. La paille est systématiquement ramassée pour venir la revendre dans les centres urbains.
En vue de trouver des moyens de subsistance.
Des moyens de subsistance. Et du coup, en ramassant aussi cette paille, c'est comme si la disponibilité fourragère en train d'être réduite pour ces transhumants, parce qu'au Niger, on a, comme si tu l'as dit, on a des couloirs de passage internationaux, on a des couloirs de passage nationaux. Donc,
et cela remet aussi en cause la durabilité, si tu l'avais rappelé. Le fait de ramasser cette paille tout de suite, ça fait que ça ne régénère plus, ça risque de ne plus régénérer.
Il passe avec les semences. On n'attend pas à ce que la paille arrive à maturité et que les semences se versent par terre pour faire ce ramassage. Déjà, la paille, avec les semences, c'est ça qu'on ramasse systématiquement. Et maintenant, au fil des ans, on va commencer à voir que certaines variétés de paille vont commencer à disparaître parce que les banques des gens qui se trouvent dans la terre est en train de diminuer et il faut attendre jusqu'à ce que la paille même puisse disparaître. Et aussi, on a l'apparition aussi de d'autres types de paille non appétées à l'état vert qu'on a commencé à voir aussi dans la zone, comme le sida coniforme, qui sont aussi d'autres formes de dégradation.
Nous allons donner la parole au professeur Lawel Sitou, bien sûr, de doyen de la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement à l'université d'Andiko d'Ankoulodo de Maradi. Est-ce que ces effets que produit la pression humaine sur les ressources naturelles, est-ce que c'est pareil au niveau de la région de Maradi ou bien on a de l'autre côté d'autres spécificités?
Oui, un peu, on peut dire pareil, mais c'est pas de la même cause, en fait. La région de Maradi, telle qu'on la connaît, c'est la région la plus densément peuplée du Niger. Quand vous prenez la densité démographique moyenne au Niger, elle est autour de 12 habitants au kilomètre carré. Mais quand vous présentez au niveau de la région de Maradi, il y a des zones qui avoisinent aujourd'hui les 150 habitants au kilomètre carré. Donc là, ça remet en cause complètement les efforts en termes d'exploitation des ressources. Aujourd'hui, quand je prends la terre elle-même, aujourd'hui, elle fait l'objet de morcellements excessifs, à telle enceinte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui ne peuvent plus se partager l'héritage parce que la superficie est très, très dérisoire. Donc, des études ont montré, en moyenne, quand vous prenez un ménage nigérien de 7 à 10 personnes, se partagent dans la région de Maradi moins d'un hectare. Donc, vous imaginez si on va morceler encore, c'est qu'il y aura des gens qui auront que des mètres carrés. Donc, du coup, là, ça pose un problème en termes d'accès, en termes d'exploitation de ces ressources-là. Et le corollaire aussi dans la région de Maradi, c'est que nous avons une surcharge donc en termes d'élevage. Quand vous prenez la zone nord, le département de Bermo, le département de Dakoro, ce sont aujourd'hui des zones proches de la zone agricole et qui sont à l'intermédiaire de toute la zone désertique, donc qui est dédiée à la zone pastorale. Aujourd'hui, quand vous partez dans la vallée de la Tarka, la charge en termes du nombre de têtes d'animaux peuvent complètement surexploiter et compromettre même la durabilité de ces ressources. Et ça cause de véritables problèmes d'enjeux, de préoccupations, non seulement entre les transhumants, mais aussi entre les locaux eux-mêmes.
Les locaux. Parce que souvent, oui, des conflits naissent à partir de ces situations.
Les conflits naissent exactement d'occupation de l'espace pastoral. L'accaparement des terres. Aujourd'hui, le Niger, depuis le 26 mai 1961, le Niger a ratifié, a adopté une loi limitant la limite nord des cultures. Mais aujourd'hui, cette loi, elle est toujours en vigueur, mais vous trouverez des champs au-delà de cette ligne de culture, au-delà, au nord, plus au nord, dans la zone pastorale.
Et il n'y a aucune mesure coercitive qui est envisagée, il n'y a pas de contrôle.
Les mesures coercitives, c'est que l'État a fait tout, l'État a mis des institutions. Si vous voulez, la question de la gestion des ressources naturelles, elle est réglementée par des institutions bien appropriées, le ministère de l'Environnement, avec toutes les directions régionales, départementales, communales, et aussi le code rural.
Mais malgré tout cela, il y a ces situations que vous décrivez.
Malgré tout cela, il y a des termes, il y a des tensions qui sont là, et souvent, ce n'est rien d'autre que la stratégie des acteurs. Il faut le dire, il y a beaucoup de situations aujourd'hui qui font aussi en sorte que dans certains enjeux, il y a de l'interventionnisme politique qui s'agit à un certain moment donné. Quand quelqu'un fait de l'accaparement d'une terre dans une zone pastorale, il faut lui appliquer la loi, retirer cette terre et il n'a qu'à retourner à la zone agricole chercher une terre productive. Mais le fait de mettre en place des terres agricoles en pleine zone pastorale n'est rien d'autre qu'un piège. Et ça, c'est tendu aux éleveurs, c'est tendu à qui ? Et les éleveurs, consciemment, sachant bien que cette zone est dédiée à l'élevage, alors ils n'ont jamais hésité à dire que bon voilà, et ici nous sommes autorisés à pâturer. Donc là, il faut que les acteurs, chacun joue son rôle en termes de représentants de l'État, en termes de représentants de communautés, en termes de communautés elles-mêmes, en termes de chercheurs. Il faut que les gens fassent un vrai dialogue autour d'une concertation pour éviter tout ce qui pourrait être.
Bien, nous revenons au studio pour donner la parole au professeur Ali Mahamoun, recteur de l'université de Diffa. Si vous avez des éléments d'information à compléter par rapport ou une appréciation, des commentaires par rapport aux effets néfastes que produit la pression humaine, et pas seulement, mais aussi l'insécurité sur les ressources naturelles.
Ok, merci. Les pressions humaines provoquent la rareté des ressources naturelles. Et le programme des Nations Unies, à partir d'une étude, a estimé que 40% des conflits à l'échelle du monde ont un lien avec les problèmes d'accès aux ressources naturelles. 40% des conflits. Donc, c'est une réalité. S'il y a un massif un afflux massif de population, ça crée des frictions entre acteurs, entre usagers de ces ressources naturelles. Et comme l'ont relevé aussi M. Arkali et professeur Situ, il y a une surexploitation des ressources forestières dans les zones en tout cas attenantes au site d'installation de ces réfugiés ou aux zones d'accès facile, mais aussi les ressources pastorales, surtout entre Menesoroa et Difa, et après Difa également. Au sorti de l'hivernage, les autorités ont relevé un ramassage systématique de ces ressources pastorales. Donc, l'objectif du forum, c'est d'améliorer la cohabitation entre ces réfugiés et les communautés locales.
Nous sommes presque à la fin de cette émission. Quelles sont les principales conclusions auxquelles vous êtes parvenu à Difa relativement à la question de la gestion des ressources naturelles? Monsieur le recteur de Difa.
Oui, donc ce qui est retenu, c'est le répertoire des bonnes pratiques de gestion de ces ressources naturelles. Ça a été relevé par mes deux collègues tout au long de l'émission, à savoir, il faut une gestion rationnelle de ces ressources naturelles, que ce soit les ressources forestières, le bois, mais aussi les ressources pastorales, l'eau. L'eau dans la région de Difa, c'est une denrée rare, surtout pendant la saison sèche. Les points d'eau sont très dispersés, et le professeur Situ l'a relevé. Donc, le troupeau a tendance à descendre vers les bas-fonds, vers les zones de production agricole. Donc, une des recommandations, c'est les bonnes pratiques, et surtout des innovations. Il faudrait desserrer ces pressions sur ces bas-fonds pour, à travers, par exemple, le forage, des forages de la zone pastorale. Parce que la production pastorale est importante dans ces zones, mais ce qui limite leur exploitation, c'est la disponibilité de l'eau.
Faire beaucoup de forages. Cela permettra à ce que les pasteurs puissent déjà rester, n'est pas l'obligation de descendre.
Voilà, ça va leur permettre de rester et valoriser davantage et les productions fourragères de cette zone sahélienne. Et une des bonnes pratiques, c'est aussi des cultures fourragères. Donc il y a des espèces pérennes dans cette zone sahélienne en transition avec le Sahara, comme Panicum turgidum, qui produit déjà dans des conditions naturelles. Et si l'espèce est assistée, ça va renforcer sa production. Une des bonnes pratiques, c'est aussi la protection des cuvettes. Dans la région de Difa, c'est les milieux de production. Ces cuvettes sont, en tout cas, reliées beaucoup de populations, des villages, avec leur bétail, les bonnes pratiques. On a fait une analyse, en tout cas très fine, de la structuration de ces cuvettes, notamment la protection surtout des dunes, à travers des espèces de relais comme Prosopis juliflora. Par la suite, effectivement, il faut associer à ces espèces relais d'autres espèces locales qui présentent des usages très appréciés par les populations locales.
Monsieur le recteur, si vous voulez bien, nous allons donner la parole aux autres invités qui sont au téléphone pour compléter. Voilà. Professeur Lawal Situ, à quelle autre conclusion le forum de Difa était parvenu et quelles étaient les recommandations phares?
Oui, monsieur Alassane, donc nous avons pris activement au forum de Difa et ce qui est grandement ressorti, c'est que c'est vraiment une innovation le fait de regrouper des autorités administratives, des autorités coutumières,
des chercheurs
d'ici et de là pour venir renforcer ces dispositifs de réflexion. C'est vraiment quelque chose qui a été grandement salué par l'ensemble des participants et qui à l'actif aujourd'hui de l'Université de Difa, du PRODAF et du PRORESILA qui ont soutenu cette initiative. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut pérenniser au Niger. Ces cadres de concertation, parfois,
multi-acteurs.
Chaque groupe d'acteurs accuse l'autre, alors qu'il n'en est pas de là. Ce sont peut-être des équipes pro-co qui posent des tensions. Donc, ça pourrait être des choses. Deuxième élément, c'est que le forum de DIFA a eu à mettre l'accent sur le respect des textes. Le respect des textes réglementaires, législatifs qui gouvernent la gestion des ressources naturelles, leur application, la responsabilité des acteurs, à quelque échelle que la personne se trouve, donc l'État, à travers les textes législatifs, a conféré un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de rôles à chaque groupe d'acteurs à jouer pleinement ce rôle-là. Il ne faut pas toujours dire que bon, l'État ne fait pas l'État. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est tout le monde. Et donc, du coup, la gouvernance des ressources naturelles implique obligatoirement une convergence de réflexion, une prise de responsabilité, un respect de responsabilité et une application effective des textes qui sont en vigueur. Et autre élément, c'est qu'il a été relevé aussi lié à la compréhension même de nos textes, parce que l'arsenal des principes d'orientation du code rural aujourd'hui, c'est qu'il est exclusivement en français. Il est bien connu que par les intellectuels.
Ça veut dire qu'il n'est pas accessible à la grande majorité
analphabète. Et en application, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais quand même, il faut que les acteurs, les services techniques de l'État, le code rural, l'administration, les chercheurs fassent des efforts pour que certains outils puissent être traduits en langue
et
les vulgariser à grande échelle. Mmh. Et comme ça, l'application serait d'une grande pertinence.
Mais donc, professeur Sitou, rapidement, si vous voulez, deux ou trois bonnes pratiques qui peuvent être répliquées sur une grande échelle en matière de gestion de ressources naturelles, en matière de gestion durable, justement, des ressources naturelles.
Oui, que vous avez retenu. Exactement. Une des grandes pratiques, c'est qu'il faut sécuriser les ressources. Et la sécurisation des ressources aujourd'hui voudrait dire une sécurisation formelle. Sur les terres agricoles, les gens peuvent se procurer de leurs papiers. Hein, le code rural est là. Aujourd'hui, il y a ces commissions foncières jusqu'au niveau des villages, au niveau des communes, au niveau des départements. Mais aujourd'hui, quand on regarde la fonctionnalité de ces commissions foncières, beaucoup reste à désirer. Donc là, ce sont des bonnes pratiques qui nous permettent vraiment de sécuriser les ressources. Les espaces pastoraux doivent être balisés. Et là où c'est balisé, il faut que les gens respectent les limites.
Et quand on ne respecte pas, que les textes soient appliqués.
Exactement, il faut respecter les limites.
Bien, nous donnons la parole à Alkali. Alkali Abdoulkarimou, chargé de suivi et évaluation au PRODAF, pour nous dire rapidement deux mots par rapport aux bonnes pratiques.
Donc, en termes de bonnes pratiques, on l'a bien dit que dans la zone agricole, on remarque une certaine dégradation du potentiel agricole de ces terres-là. Donc, en termes de bonnes pratiques, il faut les récupérer, les restaurer pour que ces terres agricoles dégradées puissent retrouver leur valeur agricole et permettre une politique agricole. Donc, cela va éviter même ce morcellement qu'on constate de la zone pastorale.
Et augmenter aussi les capacités de production des populations.
L'autre de bonne pratique, c'est la construction des stations de pompage.
Des stations de pompage, oui.
Des stations de pompage pastorales de la zone pastorale. Actuellement, dans la zone pastorale du DIFA, il y a énormément de forages, mais les animaux et les transhumants ne peuvent pas rester là-bas parce qu'il n'y a pas de l'eau. Et la nappe est très profonde. Il faut partir jusqu'à au-delà de 100 mètres, 150 mètres pour avoir de l'eau.
Donc moderniser un peu ces
stations de pompage, parce que même le fait, quand la nappe est très profonde, l'exor est fatigant. Mais avec une station de pompage, avec le bon soleil que Dieu nous a donné, l'eau est là, gratuite et en permanence. Et l'autre aspect de bonne pratique, c'est aussi, le professeur l'a dit, la culture fourragère. Et la culture fourragère, il faudrait aussi l'initier, parce qu'il faut aussi que les agro-passeurs et les passeurs puissent identifier quelles sont les variétés fourragères à haute valeur nutritionnelle pour commencer aussi à les produire pour améliorer la disponibilité.
Parce qu'il ne faut plus attendre que les fourrages soient produits naturellement.
Naturellement, justement. Ouais. Et maintenant, pour finir aussi, à DIFA, le fourrage est aussi exposé au phénomène du feu de brousse. il faut que les partenaires puissent aussi sécuriser ce forage-là à travers l'ouverture des bannes pare-feu.
Et les feux de... Comment on appelle ça, c'est...
Les bannes pare-feu.
Oui, oui, voilà.
Dans la zone pastorale, il faut ouvrir ces bannes pare-feu-là pour sécuriser le forage. Donc, ça veut dire que... Parce que la zone pastorale, c'est une zone où la densité humaine est très, très, très faible. Des fois, quand on a le feu, on n'a même pas des gens qui sont là disponibles pour éteindre ce feu-là.
Alors... Donc, oui, pour finir, j'ai cette question que je voudrais poser à tous. Est-ce qu'il y a un plan déjà prévu? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment faire en sorte que les recommandations issues de vos assises puissent être prises en compte et mises en œuvre?
Si. Et nous, au niveau du PODAF, je peux répondre seulement au niveau du PODAF, puisqu'on est l'un des initiateurs de ce forum, nous, on a déjà pris en compte ce plan, surtout le communiqué final. D'ailleurs, on a pris dans le communiqué final la plupart des activités qui cadrent avec notre domaine d'intervention. Actuellement, on a déjà élaboré des dossiers d'appel d'offres pour sécuriser un certain nombre de couloirs de passage ou aires de pâturage à travers la pose des balises, comme le professeur Sif l'a dit. Et ça permet de sécuriser ces espaces pâturaux-là. Nous sommes dans la dynamique aussi de construction des ponts d'eau pastoraux. D'ailleurs,
des stations, vous avez dit des stations de pompage, c'est important.
Des stations de pompage, oui, on en a déjà fait 6. Et actuellement, quand vous partez autour des stations de pompage là, par jour, c'est pas moins de 2007
qui viennent s'abreuver.
Qui viennent s'abreuver par jour. Donc, cela les maintient dans la partie nord de Difa et empêche leur descente dans la partie sud où les activités agricoles se font. Donc, ça diminue le conflit entre.
Bien. Professeur Ali, excusez-moi, nous n'avons plus le temps. Nous avons déjà largement dépassé notre temps réglementaire, mais on va essayer quand même de donner la parole aux deux autres pour finir, pour répondre à cette question. Professeur Ali Mahman.
Une des recommandations que l'université va prendre en charge, certainement, c'est le suivi à travers l'élaboration d'indicateurs de mise en œuvre.
De ces recommandations
en fonction des acteurs. Comme vous l'avez remarqué, les recommandations sont catégorisées pour être affectées à des acteurs, l'administration, etc. Et notre espoir, c'est surtout aussi l'engagement du gouverneur, M. Issa Lemine, qui a pris part activement à ce forum. De bout en bout, il a participé. Donc, il est très engagé, et c'est notre espoir aussi. Et la diversité des acteurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour la mise en œuvre de ces recommandations, surtout aussi l'implication forte de l'autorité coutumière. Tous les chefs de canton, tous les chefs de groupement.
Merci. Professeur Lawel Situ, nous terminons avec vous par rapport au suivi et pour la mise en œuvre de ces recommandations.
Oui, M. Alassane, en tout cas, au vu de l'engagement de l'Université de Difa, et vu aussi ce que le professeur Ali a déjà relevé, l'engagement des autorités administratives de la région, en tout cas, nous estimons que chaque service technique, selon sa spécialité, est appelé à tirer les éléments de ses conclusions pour être vu en application dans les jours à venir ou dans les mois à venir. En tout cas, un des aspects importants, c'est que peut-être qu'il fallait mettre en place un comité.
Oui.
Ne serait-ce que de faire un rapport trimestriel, semestriel et annuel pour voir l'effectivité de la mise en œuvre de ces recommandations.
À défaut de ce comité, le recteur de l'université a pris l'engagement
de faire ce suivi. Exactement, à défaut de ce suivi. Comité, je pense que le recteur de l'université de Mondifa, en tant que rassembleur de toutes ces diverses composantes, aura aussi à mobiliser d'autres éléments pour que vraiment les recommandations, une à une, puissent être appliquées dans les normes.
Merci beaucoup et c'est sur ce que prend fin le forum d'aujourd'hui sur le thème « Les bonnes pratiques pour une gestion durable des ressources naturelles au Niger dans un contexte d'insécurité et de pression accrue de l'homme ». Nous retenons que pour une meilleure gestion des ressources naturelles sur le long terme, l'adoption par tous de bonnes pratiques est nécessaire. Le respect également des textes réglementant l'exploitation et l'utilisation des ressources naturelles est primordial. Des rencontres multi-acteurs du genre du forum de Difa peuvent faciliter la compréhension des enjeux au niveau de tous les acteurs. Nous étions en compagnie du professeur Ali Mahman, recteur de l'université de Difa, professeur Lawel Situ, doyen de la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement, l'environnement à l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi. Et il était au téléphone avec nous. Et Alkali Abdulkarimoun, chargé de suivi et évaluation au niveau du programme de développement de l'agriculture familiale PRODAFA. Pour la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou, la technique assurée par Ousseini Issaka. Bonsoir.